Merci.
Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Cette émission est préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pino et Sarah Dion. La prise de son est assurée ce soir par Élise Le et à la réalisation, c'est Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir pour cette première émission de l'An de Grâce 2019, Pascaline Potvin, Sophie Rosemont et Olivier Lame. Avec à notre programme l'exposition Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma à la Philharmonie de Paris. Rebirth, le premier album de Farai et puis un petit salon tenu ce soir par Boris Pino sur ces artistes qui rajoutent des titres à leur album. Il y aura un coup de cœur, bien sûr, ce sera celui d'Olivier Lame pour un livre Réalisme capitaliste de Marc Fischer. Et puis, il y a toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Les Contes cruels de Paula Rego jusqu'au 19 janvier au musée de l'Orangerie à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec une exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 27 janvier à la Philharmonie de Paris. Une exposition intitulée « Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma » qui se propose d'explorer à travers l'image et le son cet art du spectacle vieux comme le cinéma parlant. Le tout est orchestré par N.T. Bin, à qui on devait déjà un des grands succès de la Philharmonie en 2013, une exposition consacrée aux musiques de films. Et la direction artistique est signée Pierre Giner.
Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for spread my wings and done a thousand things. I could have danced, danced, danced.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Bon, non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Nous sommes sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.
Once an immigrant, always an immigrant.
Hey, look! Instead of a shampoo, she's been brainwashed.
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America.
12 in a room in America.
Benoît Poudane ?
Oui, monsieur l'officier.
Non, je suis Thibault, l'intendant de la reine. Le prince, qui est malade, je suppose, exige un gâteau. Un gâteau. Fait par toi.
Oui, monsieur l'intendant.
Bon, alors dépêche-toi, Souillon. Nous t'attendons.
Préparez votre pâte dans une jatte plate. Et sans plus de discours,
Ça chante ici dans le studio, vous aurez reconnu pêle-mêle Björk, My Fair Lady, Les Demoiselles de Rochefort, Le Magicien d'Oz, chanson sous la pluie bien sûr, West Side Story, et puis Podane, et c'est Sophie Rosemont qui va arrêter de chanter et de bouger les épaules et qui va nous faire rentrer dans cette exposition et nous dire ce qu'on y voit.
Alors on y voit évidemment des films avant tout, il faut savoir que c'est une exposition qui est très chaleureuse, assez ouverte, car nous avons une espèce de grande pièce centrale autour de laquelle s'articulent quelques petits espaces d'art et autres pièces dont on va parler plus tard. Mais cette pièce, c'est un peu le clou du spectacle dans le sens où il y a un très long mur. C'est une pièce tout en longueur. Mur sur lequel sont projetés différents micro-métrages thématisés. Où sont mis en parallèle aussi bien les pas de Michael Jackson et Fred Astaire, les prestations de Judy Garland, Liza Minnelli et Marilyn Monroe, la chanson des jumelles qu'on a entendue. Et on s'arrête forcément, c'est-à-dire que en arrivant moi dans l'exposition, j'avais pas du tout envie de m'asseoir et de regarder quoi que ce soit qui ressemble à, de près ou de loin à un extrait de film. Et j'ai été finalement happée. Donc comme tout le monde, j'ai fini par m'asseoir et je suis entrée là-dedans. Donc oui, la direction de la Philharmonie parle d'immersion, ils n'ont pas tort. Et même les enfants rentrent dans le jeu parce qu'il y a quand même ce côté un peu on picore. Ce sont vraiment des petits extraits réunis, thématisés les uns à la suite des autres. Grand succès auprès des adolescents, forcément. Ça leur parle particulièrement, ce côté un peu snacking. Et autour de cette pièce, il y a donc un costume de Podane, une pièce destinée aux enfants tapissée des dessins des Aristochats, et des interviews ici et là diffusées de notamment de compositeurs, je pense à celle d'Alex Baupin, et des cours de claquettes. Je crois qu'Olivier Lam a fait des merveilles, il va nous le raconter, ces cours de claquettes, où en 5 minutes, Fabien Ruiz, qui a donc travaillé notamment sa vie artiste, nous apprend, enfin en 5 minutes, il essaye de nous apprendre quelques pas.
Oh, parce que c'est hyper difficile, hein. Moi, pour avoir fait quelques cours de claquettes.
Surtout qu'on n'a pas les chaussures.
Plus de 5 minutes.
Mais ça a son petit avantage. Alors, cette petite pièce est cachée derrière l'écran, on va dire l'écran de projection, le mur de projection. Donc, il faut oser traverser pour y aller. Mais une fois qu'on y est, voilà, c'est le petit icing on the cake. Bon, après, il y a tout ce qu'on attend d'une exposition familiale. Donc, les enfants se déguisent. Il y a des photos, il me semble, à faire. Donc voilà. Après, du point de vue de...
On y reviendra peut-être.
D'accord.
On fait un premier tour. Olivier, première Alors, vision de cette exposition à la fin.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé à l'entrée. Il y a un écran qui diffuse une espèce de montage qui raconte un peu les images de la fameuse scène de Chantons sous la pluie, dont j'ai appris qu'elle était déjà récupérée d'une comédie musicale de 1929. Et ça, voilà, son essaimage à travers les âges, jusqu'à il y a un extrait d'un Astérix, je crois, Lucky Luke, que je connaissais pas.
Avec les Dalton.
Sur un cartel écrit un tout petit à gauche de l'écran, on découvre que, voilà, que forcément que la scène la plus iconique de toute l'histoire de la comédie musicale, évidemment, le son était post-synchronisé. Comme on est à la Philharmonie, qu'on n'est pas à la Cinémathèque, moi, c'est le son qui m'a intéressé. Et de l'autre côté, un peu de l'espace d'exposition, c'est-à-dire complètement à gauche du grand mur, du grand écran frise internet qui sert de centre névralgique pour l'exposition. Il y a une photo de la post-production d'un film qui s'appelle Les Chercheuses d'or de Bisbee Berkeley, donc ce fameux réalisateur chorégraphe qui filmait ces scènes, qui avait fait un trou dans le studio pour pouvoir filmer en vue plongeante ces fameuses scènes dans l'eau. Enfin, on a vu ces images 1000 fois. Et on le voit en fait enregistrer, en fait superviser l'enregistrement des des sons pour un numéro de claquette collectif d'un numéro qui s'appelle Lullaby of Broadway. Et là, on comprend la mise en œuvre technique que nécessitaient ces films, qui étaient vraiment des prototypes, qui étaient à la pointe de la technologie et qui effectivement, je crois que c'est Fred Astaire qui explique ça quelque part ailleurs dans un autre cartel. À son âge d'or, la comédie musicale était vraiment concentrait tous les moyens et tous les savoir-faire à Hollywood, comme aujourd'hui, en gros, les films de super-héros. Donc il y a cet aspect-là qui est très intéressant, puisque voilà, sur cette photo, on voit une vingtaine de danseuses en costume d'ailleurs, avec chacun un casque sur la tête. C'est une photo qui date des années 30, donc on voit quand même tout ce qui était mis en œuvre. Et c'est la seule chose que j'ai appris malheureusement dans l'exposition. Moi, j'ai un gros problème cognitif avec ces expositions où effectivement on doit picorer et surtout regarder des écrans. Il faut savoir quand même que si on veut apprendre quelque chose sur l'histoire de la comédie musicale, alors je suis un peu vieux jeu, je suis un peu scrogneux, je suis pas allé avec des enfants, mais il faut s'asseoir dans un tout petit couloir devant un écran qui fait défiler très lentement des infos, on va dire période par période. Il y a une dizaine de périodes, de la création jusqu'au renouveau récent avec La La Land. Il faut attendre, il faut regarder défiler des sortes de menus Apple, des frises très denses en informations, et c'est honnêtement personne ne s'arrête, enfin à part les gens, voilà, on vous donne un casque à l'entrée. Moi, je pendant 10 minutes je savais pas où le brancher. Bon, après j'y suis allé un dimanche, il y avait beaucoup de monde, donc en fait j'ai compris que je ne pourrais le brancher nulle part à moins de faire la queue partout. Et surtout cet écran qui diffuse donc en fait des sortes de vidéos, moi, qui me font penser à ce qu'on voit sur Facebook, je type les choses de brut en fait, et qui mettent en relation effectivement de manière extrêmement savante, mais pour accéder aux informations, il faut quasiment être aussi savant que les gens qui ont fait ces vidéos, qui mettent en relation effectivement des documents et qui sont pour moi extrêmement frustrantes. Je vais prendre pour exemple cette courte vidéo là sur les demoiselles de Rochefort, où on a la fameuse scène des Sœurs Jumelles, et il y a à côté de ça une vidéo où on voit les coulisses de préparation avec Demi lui-même, tout jeune, tout pimpant, en train de danser, Deneuve et Françoise d'Orléac, qui ont l'air de beaucoup s'amuser, clope à la main, etc. Et on les voit parler. Et on n'a pas le son. Donc là, je pense qu'il y a un problème de densité. Je pense qu'il y a évidemment qu'il y a un problème qui n'a pas de solution en soi, puisque en gros, moi, j'aurais voulu voir une exposition sur Demi ou sur Bisbee Berkeley ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je suis reparti, j'avais rien appris, alors que les comédies musicales, fondamentalement, j'y connais pas grand-chose.
On y reviendra justement à cette vidéo. Je trouve qu'elle est intéressante. Pascaline, premier regard sur cette exposition.
Moi, c'est sur le mot immersif, effectivement, qu'a cité Sophie et qui est cité bien sûr dans le dossier de presse et dans la description que nous fait la Philharmonie de l'exposition. Et effectivement, c'est une exposition très immersive. Moi, j'avoue que le coup de passer ce petit hall d'entrée, cette petite mise en bouche avec Chantons sous la pluie, où déjà on a Jane Kelly quand même sur un grand écran, on a limite envie de le prendre dans nos bras ou qu'il nous prenne dans ses bras. Quand on arrive devant cet immense écran, ces écrans panoramiques, on entre vraiment dans la comédie musicale. Et moi, c'est ça qui m'a plu quelque part. C'est que vraiment, j'en ai pris plein les yeux, un petit peu plein les oreilles, voire un peu trop aussi. Mais ce que j'aime dans la comédie musicale, parce que j'aime ça, c'est ce côté justement où j'ai toujours l'impression de rentrer dans l'écran, le fait d'avoir une action qui bouge, qui chante, qui danse, ça va, c'est ballet, toutes ces choses, j'ai toujours l'impression de rentrer dedans, d'être incluse dedans, et là je l'ai encore plus. Et je trouve que l'expo, elle rend un joli hommage à cette fonction enveloppante de la comédie musicale, avec ce grand écran immersif et qui va jusqu'au bout, puisqu'on rentre littéralement dans la comédie musicale, puisqu'il y a cette petite porte dans l'écran panoramique qui vous fait rentrer dans la salle des claquettes. Donc moi, j'ai bien aimé ce côté que ça m'emporte, en fait. Et effectivement, on voit pas mal de gens dans le public qui esquissent des pas de danse, qui se mettent à chanter. Si vous aimez ça, c'est vraiment un bonbon. Au niveau de ce qu'on y apprend, effectivement, je suis un petit peu restée sur ma faim, moi aussi. Les deux petits bémols, il y a le côté un petit peu cacophonique, un peu, on en prend donc plein les yeux, plein les oreilles. Je suis un peu restée sur ma faim. Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante avec ce picorage dont parlait Sophie, c'est que j'aime bien le côté coulisses. Moi, j'aime toujours apprendre des choses sur les coulisses, voir les répétitions de Jean Dujardin et Bérénice Bejo pour la grande scène finale de The Artist, quand ils font des claquettes. J'ai bien aimé voir ces images-là. J'aime bien l'interview de Alex Baupin quand il raconte que Louis Garrel chantait trop bien sur les chansons d'amour de Christophe Honoré. Je vous explique pas pourquoi. Et aussi, un truc que j'ai bien aimé, c'est tout ce qui est la mise en valeur de à quel point la comédie musicale se nourrit elle-même, en fait. Tous ces montages qui sont faits entre un parallèle entre Fred Astaire et Michael Jackson, ce montage avec La La Land et toutes les scènes de cinéma d'autres comédies musicales qu'il cite, et donc on voit vraiment les choses mises en parallèle, ou le parallèle avec Fred Astaire, je crois que c'est le film Mariage à l'anglaise, et Lionel Richie. Donc Fred Astaire qui danse sur le plafond d'une chambre, et Lionel Richie dans la chanson Dancing on the Ceiling, tous les deux mis en scène par Stanley Donen, et on voit comme ça les deux images se superposer. Moi, ce côté fil rouge, la comédie musicale qui n'a cessé de s'influencer elle-même, je pense que pour les connaisseurs, on apprend forcément rien, mais on reste quand même émerveillé, en fait. Donc voilà, ça m'a plu.
Oui, sur le fond, moi, je trouvais assez décevant qu'on nous fasse entrer dans l'exposition via quelque chose d'historique, d'assez intéressant sur le fait que Singing in the Rain est en effet une chanson liée à la Grande Dépression et que du coup, la comédie musicale, elle naît en période de crise et qu'on lâche tout à fait ce fil-là.
Pourquoi on chante plus ?
Tout à fait. Et moi, j'ignorais aussi que Singing in the Rain précédait le film, la chanson du moins. Et après, j'ai été assez déçue. Bon, en effet, j'y suis aussi allée un samedi. C'était absolument bondé. J'ai pas tout écouté, tout vu. Mais de voir que la question, par exemple, idéologique du contexte de la comédie musicale et de la manière dont elle se développe dans Hollywood et à quel point elle est un doudou, voilà, l'exposition aussi, n'était jamais vraiment remis en question. Sophie, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois très bien, d'autant plus que ça met aussi en valeur, enfin, plutôt en avant, plus précisément, étonnamment, parfois la faiblesse scénaristique de certaines comédies musicales qui ont ce rôle doudou, et on leur demande pas d'être très fortes en termes, on va dire, voilà, de scénario, mais surtout en termes de danse, de chant, elles enrobent. Et d'ailleurs, le sous-titre de l'exposition, c'est La joie de vivre. Et c'est une exposition qui est assez joyeuse de par son ouverture dont on a parlé là, à maintes reprises, mais clairement, elle est destinée aux néophytes, aux enfants aussi. Les connaisseurs sont forcément assez frustrés. Par exemple, oui, il y a un accent sur les chansons d'amour de Christophe Honoré. Les Bien-aimés est une comédie musicale, à mon sens, beaucoup plus réussie que les chansons d'amour, où les chansons sont encore plus fortes, plus émouvantes, liées de manière beaucoup plus complexe et beaucoup plus passionnante au scénario de Christophe Honoré. Donc, mais là, on reste vraiment sur les gros, voilà, les très grands noms, les gros tubes de la comédie musicale. Et pourquoi pas, parce qu'on les a peut-être pas forcément tous vus. Mais il est vrai que moi, en ayant vu pas mal, oui, la frustration est forcément là. Mais une fois encore, ça se picore. On profite du moment présent et un peu comme on fait devant une comédie musicale, un dimanche soir. Alors bon, là, un dimanche après-midi, c'est entouré de beaucoup, beaucoup de monde. On n'est pas tout seul sur notre canapé avec notre plaid et notre crème glacée. Il faut juste imaginer et ça fonctionne.
Et puis ce qu'on voit, c'est assez à l'image de ce qu'on a entendu là, dans le petit mélange préparé par Alexandre Fougeron. C'est quand même très américain, très français. Il y a une petite partie à laquelle j'ai pas réussi à accéder. Il y avait 12 000 personnes devant moi qui traitent un peu de la comédie musicale hors ces contextes-là. Mais je sais pas si vous avez pu
Pascal. Oui, j'ai pu y aller. Alors effectivement, ça manque aussi peut-être un peu de contexte. Il y a des quelques cartels qui nous expliquent que en fait la comédie musicale ce n'est pas que Hollywood, bon on s'en doutait quand même, qui nous montre des extraits de films de Bollywood, qui nous montre même un extrait d'un film russe en fait, je crois.
Des extraits sans le son. Hein.
Oui c'est ça, voilà, des extraits sans le son. Voilà.
Ah bon, mais on pouvait brancher, non?
Mais non, mais si, moi j'ai branché.
J'ai pas trouvé l'endroit.
Si on pouvait.
Attends. Non mais si moi j'ai branché et j'ai entendu du son, mais c'est juste que ça manque de contexte en fait. Il y a un film russe qui est censé être un film soviétique, donc la comédie musicale mise à des fins de propagande bolchevique. Moi c'est des choses que je trouve intéressantes. Et j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus.
Bollywood, il passe très très vite, je trouve.
Voilà,
très vite. Alors que Bollywood, c'est quand même une industrie
monstrueuse. Ça pourrait être une grosse exposition.
Et pareil, ça aurait été intéressant de voir à quel point les comédies musicales ont pu servir la propagande. Et juste un mot sur le côté joyeux et mélancolique. Lors de la projection, on voit un extrait consacré à Björk, où s'interfèrent deux passages, un dans *In the Dark*, une scène de procès finalement assez glauque comme l'ensemble de ce film d'ailleurs, mais assez beau, et le clip *It's Also Quiet*. Et là, c'est intéressant de faire échanger. Donc parfois, il y a quelque chose. On se dit oui, mais effectivement, ça va pas plus loin.
Olivier, un dernier mot.
Bah, outre le fait que moi je vais pas au cinéma pour regarder des écrans, je suis désolé, je vais pas au cinéma. je vais au cinéma pour voir des écrans, mais je vais pas avoir une exposition pour voir des écrans. Moi, je pense quand même qu'il y a un problème de collectif en fait, c'est-à-dire qu'on est censé effectivement on aimerait qu'il y ait quelque chose qui passe dans le public qui vient visiter cette exposition, alors tout le monde est un peu isolé avec son casque sur les oreilles.
Moi c'était pas le cas, hein. Je tiens à dire que les gens chantaient et dansaient aussi, en même temps que les personnages. C'était assez réjouissant de ce point de vue.
Bon, voilà, c'est peut-être que dans l'idée d'une exposition un peu comme une sorte de part d'attraction, ça peut fonctionner. Mais moi, encore une fois, j'ai l'impression que le néophyte ne s'y retrouvera pas vraiment, puisque c'est une exposition qui est un peu, moi, je vais reprendre l'expression doudou, mais doudou comme ces choses qu'on va voir parce qu'on les connaît déjà, comme un best-of, comme Bohemian Rhapsody au cinéma. Voilà, s'il y a quelque chose, les gens y vont pour retrouver quelque chose ou un fantasme de quelque chose qu'ils ont perdu. Voilà, et c'est du coup, moi, c'est une exposition qui m'a rendu mélancolique plus qu'autre chose.
Voilà donc pour l'exposition comédie musicale qui s'appelle pourtant La joie de vivre du cinéma. Ça se tient à la Philharmonie de Paris. Il existe un catalogue édité par les éditions de La Martinière, et à signaler aussi une autre exposition comédie musicale, Les costumes font leur show. Ça, c'est au Centre national du costume de scène. C'est à Moulins et c'est jusqu'au 28 avril. À suivre dans la dispute Faraille, un coup de cœur d'Olivier Lam, mais tout de suite, Le petit salon de Boris Pinault. Et oui, j'ai ce soir confié les clés du petit salon à Boris Pinault. Et ce soir, eh ben en fait, la fête n'est pas finie.
7h du mat, je dois rendre l'épilogue dans 7h. Il y a de fortes chances que le son soit jamais mixé. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il ait jamais existé. Tout ce que je sais, certains sont forts pour combler mes failles. D'autres savent bien comment on les exploite. Certaines relations sont néfastes. Parfois les chemins se séparent, mais les erreurs se réparent. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ.
Retour au départ, rap Orelsan qui ressortait en novembre son dernier album La Fête est finie, en version augmentée. Au même moment, on voyait atterrir dans les bacs la réédition d'un autre album parmi les gros succès francophones de la saison dernière, celui d'Eddie Depreto, également en version augmentée. Plus vraiment besoin de présenter les deux artistes a priori. Orelsan, rappeur populaire et sarcastique, son dernier album a été numéro 1 des ventes à sa sortie et a remporté 3 victoires de la musique. Eddie Depreto, révélation 2018 avec son album Cure, entre rap et chansons françaises, qui se plaçait lui aussi en mars dernier numéro 1 des ventes. On parle donc de gros succès. Des albums aujourd'hui réédités et augmentés, respectivement de 11 morceaux supplémentaires pour le premier, 4 pour le deuxième, que de l'inédit. À propos de sa motivation, Orelsan déclarait sur France 2 qu'il n'avait alors peut-être pas encore, je cite, « fini ce chapitre ». Le rappeur boucle la boucle en proposant par exemple dans l'album augmenté une réponse au titre « Défaite de famille », sorte de démontage mordant d'un repas de famille qui figurait sur l'opus originel. Dans Épilogue, il y a, je cite encore, la réponse, le un an plus tard avec la version positive de la chanson de l'année dernière. Le reste de l'album est à l'avenant, comme une version miroir de la première mouture. On peut donc ici saluer, a priori, une certaine cohérence artistique, car Orelsan, me voyant venir, certainement, déclarait au monde « Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais fait de réédition d'album, car je ne voyais pas trop l'intérêt, si ce n'est marketing, revendre du disque avec 3 ou 4 morceaux en plus. » 4 morceaux inédits, c'est justement ce que propose Depreto dans son album réédité, plus les versions instrumentales de 3 de ses tubes. Comparé à Orelsan, l'ajout semble être ici plus de l'ordre du bonus.
Alors, raccrocher cet assemblage à un album déjà réalisé, à quoi ça rime?
Alors déjà, heureux hasard en passant, on peut noter que dans un cas comme dans l'autre, les versions augmentées sortent le mois, la semaine même pour Eddie Depreto, où les premières moutures quittent le top album, et quelques semaines par ailleurs avant Noël. La pochette du disque augmenté d'Eddie Depreto est tout à fait parlante. Sur l'album originel baptisé Cure, l'artiste est affalé sur une chaise, une jambe posée sur une table, un smartphone à la main. L'image mime un selfie pris dans un miroir. Depreto nous regarde et se regarde d'un seul coup d'œil. Le visuel de la version augmentée du disque joue sur un montage d'images. En lieu et place du geste caractéristique du selfie a été collée la photo d'un biceps bandé et bodybuildé qui prolonge le corps de l'artiste. L'image veut agir comme une affirmation. Eddie Depreto est le nouveau patron d'une nouvelle scène française hybride. Elle semble surtout poser le projet de la réédition. Fini le selfie qui voulait signifier l'introspection d'un jeune artiste post-internet. Mort le geste artistique, place aux muscles. Il s'agit de gonfler les ventes. L'album vivra une deuxième vie sous les augures du culturisme. Et justement, pour sa nouvelle version, l'album Cure est rebaptisé Culte.
Mais alors, quid de la dimension éditoriale?
Eh bien, un album augmenté sur les plateformes numériques est un objet assez étrange. Il propose pour majorité la même chose que l'album original. On pourrait tout aussi bien isoler seulement les titres ajoutés. Le fait d'acquérir le disque physique relève pour le coup soit de la séance de rattrapage, j'ai adoré ce disque, il ressort avec des bonus, je l'achète, soit du geste du fan hardcore. Le projet éditorial et marketing semble d'ailleurs tout à fait assumé dans le cas d'Eddie de Preto. Avec ce nouveau nom culte, l'album s'assume d'emblée comme un objet à posséder, un objet de collection. La réédition d'un album en version augmentée sauverait donc alors l'objet disque à l'ère du tout streaming, mais est-ce au sacrifice du concept même d'album ?
Pascaline, à ce concept d'album, qu'est-ce qu'on en parle dans la dispute régulièrement ?
Bah oui, non, mais le concept d'album, je pense qu'effectivement, version augmentée par version augmentée, l'album CD, l'objet, effectivement, il est en perte de vitesse. Après le concept d'album, moi, je continue à écouter des albums. Est-ce que la nouvelle génération le fait ? Je pense que malgré les playlists, peut-être qu'elle le fait encore. En fait, je pense qu'elle va écouter un album quand elle est vraiment fétichée sur un artiste. Je pense que dans le cas de Eddie de Preto, il y a tellement eu un amour pour le personnage, un engouement pour le personnage, même au-delà de ses chansons, que peut-être que les gens écoutaient ses albums sur la longueur. Est-ce qu'ils l'ont écouté en version CD ? Je ne sais pas. Et c'est effectivement peut-être ces fans-là qui achèteront l'objet en édition augmentée par fétichisme. J'allais ajouter une chose à vos arguments de pourquoi est-ce qu'on achète à Noël. Je pense qu'il y a aussi les gens qui ne savent pas quoi offrir et qui savent que tiens, tu es fan de Eddie de Preto, eh bien je vais t'offrir l'objet augmenté ou d'Orelsan. Donc je pense qu'effectivement tout ça est très très marketé et très opportuniste et très ça tombe bien pendant les fêtes de Noël. Après, je pense que ça dépend de ce que chacun en fait. Dans le cas d'Eddie de Preto, effectivement, il y a 4 titres, dont 3 plus 3 instrumentaux.
Oui,
donc les instrumentaux, vraiment, moi, je me demande à quoi ça sert, à part à faire du karaoké chez soi, voilà. Sûr. Mais bon,
Olivier, il adore faire du karaoké
voilà.
Sur Eddie de Preto.
Oui. Dans le cas d'Orelsan, il y a quand même 11 titres. Je trouve ça plus intéressant. Je trouve qu'ils proposent quelque chose. Alors, en fait, tous les deux, ils creusent une veine qu'ils ont déjà largement exploitée sur leur album. Eddie de Preto, la veine du coming out, de l'acceptation de soi, de l'acceptation de sa différence. Le titre grave, qui est un peu le titre phare de cette nouvelle édition, apporte en ce sens pas grand-chose. Les autres titres, je crois qu'il y a un titre sensible aussi qui parle un peu, qui est un peu une invective aux gens qui l'ont, aux haters ou aux journalistes qui l'ont un petit peu démonté. Bon, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Orelsan, en revanche, avec ses 11 titres, même s'il creuse toujours la même veine, même s'il répond à ses chansons, il y a un art de la punchline, il y a un talent qui est tel que j'y découvre encore quelque chose. Et franchement, les 11 titres de Épilogue, moi, je les écoute presque indépendamment de La Fête est finie.
Olivier Lam, peut-être sur Orelsan, parce que c'est vrai que c'est différent pour le coup. Il y a quelque chose d'une... C'est presque un deuxième album.
Alors,
qui répond au premier.
Pas très intéressé par ce disque d'Orelsan. Je peux revenir un peu sur la question que posait
Boris
à la fin de sa proposition. C'est qu'est-ce qu'un album en fait ? Et c'est vrai que finalement aujourd'hui que les albums, voilà, il y a des albums posthumes, il y a des albums remasterisés, remixés. On a vu le White Album des Beatles démultiplié. Moi, j'ai énormément écouté les mille et une versions des chansons de Blood on the Tracks de Bob Dylan, voilà, qui est un énième coffret dans lequel plonger quand on est fan. Aujourd'hui, il y a la Drake qui nous propose des playlists. Il y a Kanye West qui modifie des albums après leur sortie en streaming aussi. Je me demande si l'histoire en fait de l'album est pas quelque chose l'objet album comme œuvre d'art unique en fait est pas quelque chose sur lequel on s'est un peu trompé en fait, qui finalement a beaucoup plus changé à travers les âges de la musique que ce qu'on croit. Aujourd'hui, en gros, un album, on considère que c'est une œuvre d'art qui a été faite en studio. Donc, en gros, on revient toujours à Sgt. Pepper's et Beatles. Or, l'album, il a été autre chose avant, il a été autre chose après. Et j'ai l'impression que, finalement, les gens qui s'intéressent à l'album en tant qu'œuvre d'art, finalement, on va dire les mélomanes, sont à peu près aussi nombreux que les cinéphiles qui vont au cinéma. C'est-à-dire, ils sont en minorité. Donc... qu'on augmente ou qu'on amenuise un album. Moi, je sais que par exemple les disques de David Bowie, je les ai découverts dans les années 90 en les achetant dans une version en CD qui était systématiquement accompagnée. Tous les albums étaient accompagnés de plein de bonus. Puis il y a eu les remasters du début des années 2000 et ils ont enlevé tous les bonus. Je sais pas moi. Moi, je sais que j'ai découvert ces disques avec les bonus. Donc finalement. Je trouve que la question n'a pas fini d'être posée, surtout aujourd'hui avec le streaming. C'est vrai que ces morceaux qu'on rajoute à la fin ne modifient pas l'œuvre en soi, puisque l'œuvre en soi n'était pas vraiment définie pour les gens qui l'écoutaient principalement en streaming à travers des plateformes qui mettent pas forcément en avant l'album comme quelque chose de bien délimité. Donc voilà, ça me fait aussi penser à quelque chose, on va dire, si on parle de marketing pur, au Japon, à un moment, la crise du disque physique avait été momentanément, on va dire, ralentie par un stratagème très malin. Il y a tous ces groupes d'idoles, enfin de jeunes filles, notamment un groupe qui s'appelle AKB48, et qui est décliné à peu près pour toutes les régions, où en gros, il y a 48 membres par groupe, et quand il y a un nouveau single, on le sort. On sort une édition limitée par membre du groupe. Et les fans, on sait comment les Japonais notamment peuvent être par rapport à la pop musique, acheter chacun des exemplaires, parfois en plusieurs exemplaires, etc. Ce qui a permis de, pendant 4-5 ans, de continuer à faire vendre du CD de manière pléthorique au Japon, alors que effectivement là-bas aussi, la crise du format physique commençait à se faire sentir. Moi, ça me désintéresse pas, cette histoire, parce que aujourd'hui, effectivement, l'objet CD ou même vinyle, c'est un objet de transition, c'est-à-dire c'est principalement les gens qui ont peur de mourir comme nous, qui font des collections, qui achètent des disques en pensant que peut-être ils vont sauver la musique et se sauver eux-mêmes en faisant des grandes collections de
disques. Et que nos enfants disques, vont les écouter,
voilà,
bien sûr.
À la maison. Ou par les fans qui en fait achètent aujourd'hui, on sait qu'un fan de PNL, quand il achète un CD, il va jamais l'écouter, c'est juste parce qu'il veut montrer qu'il est fan. Mais ça me rend un peu nostalgique d'une époque où effectivement l'objet disque était tout dans la culture pop, puisqu'on n'avait pas accès à grand chose, peut-être à des articles dans des magazines, et on pouvait fantasmer pendant des heures et des heures sur une photo et sur le choix et sur la signification. Évidemment, aujourd'hui, tout ça a volé en éclats avec la démultiplication des formats et des écrans. Et j'ai pas du tout répondu à la question de Boris, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup, et je pense que c'est tout à fait chouette qu'un artiste puisse modifier son album une fois qu'il est censé être terminé, ad vitam aeternam, enfin c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Enfin, quoique avec les albums posthumes,
Boris,
aujourd'hui on sait plus.
Parce que du coup, l'album, à partir de ce point-là, par exemple, il y a 25 titres à présent sur La fête est finie, plus épilogue d'Orelsan. Du coup, l'album devient aussi monstrueux, enfin, je veux dire, il pourrait ne jamais s'arrêter, en fait, finalement.
Oui, quelque part. Enfin, si, parce que je pense que Orelsan a un temps fini. Mais c'est une question qui se posait avec cette fameuse playlist de Drake qu'il a sortie il y a 2 ans, ou même avec son album qui, lui, ne sort que des albums interminables pour occuper un maximum d'espace en streaming et gagner un maximum d'argent. Et à l'inverse, Kanye West a fait que des albums de 28 minutes. Il en a sorti 7 cet été. Bon, bref, c'est intéressant tout ça.
Sophie Rosemont,
la musique.
Je dirais juste que mes étudiants, parce que parfois, oui, j'enseigne à des jeunes personnes de 20-22 ans, m'ont tous dit « Ah, vous avez vu, Orelsan sort un nouvel album. » Pour eux, c'est un nouvel album. Et quand je leur ai demandé de me faire des chroniques sur les supports culturels de leur choix, donc beaucoup ont choisi la musique et beaucoup ont choisi ce qu'ils ont présenté comme un nouvel album d'Orelsan. Ils l'ont complètement dissocié du premier, ce qui n'est pas du tout le cas pour Edith Preto, qu'ils aiment, bon, forcément moins, c'est un peu moins populaire qu'Orelsan, mais le peu qui m'en ont parlé ont bien compris que c'était « Ah oui, l'album pour Noël ». Donc je crois que c'est la différence est là, sans doute dans le nombre, dans la quantité. Après, ça ne m'a pas bouleversé outre mesure l'un comme l'autre. Mais quelle était la question de Boris Pinot tout à l'heure ? J'aimerais bien.
La question était qu'est-ce que ça fait au concept de l'album ? Mais Olivier parlait.
Je suis complètement Olivier Lame là-dessus. J'étais 100% d'accord. D'ailleurs, je hochais vigoureusement la tête et je crois que je commence cette année en étant maintenant toujours d'accord avec Olivier Lame. Enfin,
c'est dangereux.
Peut-être.
Mais par exemple, Olivier parlait du White Album de Beatles qui est ressorti là il y a quelques semaines. Du coup, il y a aussi le Waiting for the Sun des Doors qui est sorti, auquel vous aviez accordé un coup de cœur, Sophie. Là, on parle d'album mythique. Vous, qu'est-ce que ça vous fait justement de voir un album ressortir comme ça, augmenter ?
Alors moi, c'est complètement irrationnel et voilà, je fais partie des gens qui ont peur de mourir et qui vont garder tout ça. Enfin, moi, je serai enterrée avec tout ce que j'ai de Jim Morrison dans mon cercueil, n'est-ce pas ? Mais aussi de Dylan. Enfin bref, je suis très mal. Mais là, c'est vraiment cette réédition-là m'a apporté voilà, 2 titres live intéressants, 2 ou 3 démos que j'ai aimé écouter, mais c'est pas très grave. En revanche, je rebondis sur l'histoire de David Bowie tout à l'heure, que racontait Olivier Lame. Moi qui ai découvert David Bowie sur les albums, les vinyles de mon père, donc qui datait de l'époque, je ne connaissais pas ses bonus. En revanche, il y a 3 ans, enfin depuis 3 ou 4 ans même, parce que je crois qu'ils n'ont pas terminé de tous les sortir, sa maison de disque, je crois que c'est Sony, sort coffret sur coffret avec, je crois, les bonus auxquels avait droit Olivier Lame il y a 25 ans, enfin non, il y a 12 ans, 10 ans, quand il était, enfin, il est encore très jeune, 5 ans et demi. Et maintenant, ils ressortent en coffret à des prix astronomiques. Mais il est vrai qu'en posséder un, ça me procure un... Ah, moi, je fonctionne à fond sur l'album, la pochette, les notes de pochette. Rien qui m'excite plus qu'un livret de pochette d'album. Ça m'émeut. Je lis toujours les remerciements. Je suis très... Enfin, je suis une espèce de fétichiste de l'album.
Bon, sur ces réflexes fétichistes, on ferme le petit salon.
La dispute. France Culture.
Et on passe à présent au premier album d'une chanteuse et artiste, Farah. Elle est anglaise d'origine zimbabwéenne, repérée après un premier EP l'année dernière. Elle incarne, dit-on, la renaissance du post-punk et de la new wave anglaise. Vous allez devoir m'expliquer ce que c'est. Avec un album à forte résonance politique, l'album s'appelle d'ailleurs Rebirth, Renaissance. Il décrit l'atmosphère de pauvreté, de précarité de certains quartiers londoniens. Il interpelle Theresa May dans des morceaux ultra en prise avec l'actualité. On écoute tout de suite National Gangsters. Yeah. 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 National gangsters. National gangsters. Bankers.
Brown.
National Gangsters, Farai, et c'est Olivier Lam qui commence à nous en parler.
Oui, il y a quelques semaines, il y a le Nouvel Obs qui faisait une couve de son magazine, qui c'était l'Angleterre qu'on aime. Et je crois que c'était Emma Watson en couve et j'ai feuilleté un peu le magazine, il n'y avait que des blancs et ça m'a un peu interpellé, ça m'a rappelé cette vaste blague qui était la Britpop dans les années 90, alors qu'en face c'était l'explosion de la musique de rêve, de la jungle, de la musique faite essentiellement par des gens des classes populaires et des noirs. Et là c'est intéressant parce que jamais les influences caribéennes, africaines n'ont été si fortes aujourd'hui dans les charts en Angleterre. Il y a des échanges incessants avec le Nigeria, le Ghana, avec l'Afrique anglophone. Et j'aime bien ce disque de cette jeune dont le nom complet est Farai Bukowski Bouquet. Je ne sais pas si c'est son vrai nom.
C'est très classe en tout cas.
Elle était poète. Elle a commencé comme poétesse sous le nom de Bukowski, ce que je trouve formidable. J'aime pas beaucoup Bukowski en plus, donc je trouve ça parfait. Et elle faisait partie avant de sortir cet album, d'être découverte par Ninja Tune, d'un collectif qui s'appelle Non Worldwide, qui est un collectif qui est principalement aujourd'hui, la plupart des sorties en fait sont en ligne, de musiciens dans la qui sont vraiment éparpillés aux quatre coins du monde, vraiment du Texas jusqu'à l'Afrique du Sud, et dont la particularité d'être afro-descendant. Et son EP à elle est une espèce de truc très étrange de spoken word sur un mélange d'ambiance et de post-punk. Et il y avait quand même cette voix, cette manière de poser, cette gouaille un peu étonnante. Aussi ses paroles très simplistes, scandées, qui n'ont rien à voir avec, par exemple,
beaucoup de citations,
de choses répétées, qui c'est le contraire de ce que fait Kate Tempest, par exemple, qui elle fait des choses très littéraires sur du jazz, un peu pimbèche, et elle c'est exactement le contraire. Elle y va, elle est gueularde, et j'aime bien ça. Par ailleurs, elle était aussi chanteuse de jazz, et là, dans le disque, il y a dans cet album-là, donc qui arrive qui arrive un peu moins de 2 ans après ce premier EP. Elle est sur un truc très découpé, c'est-à-dire qu'il y a des choses assez rentre-dedans, assez avec des boucles un peu de musique électronique assez abrasive qui rappelle les Slits, et des choses un peu plus, on va dire, sentimentales qui pour le coup fonctionnent beaucoup moins bien. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un objet qui est chouette parce qu'il est un peu flemmard, il est un peu vite fait, et je trouve ça chouette que Ninja Tune aujourd'hui sorte un objet comme ça, alors que tous les disques sont des gros machins produits verrouillés, multiverrouillés. Et là, j'ai un peu l'impression d'écouter un disque vraiment de post-punk, c'est-à-dire quelque chose fait un peu vite, qui ressemble à la première écoute un peu à une arnaque, et qui finalement distille un charme qui est finalement est bien plus précieux que plein de choses beaucoup plus travaillées. Enfin voilà.
Pascaline Potvin, vous avez eu la première écoute qu'Olivier ?
Oui, j'ai eu la première écoute et je continue. Enfin, c'est ma première écoute, c'est effectivement d'entendre quelque chose un disque où il se passe pas grand chose, mais qui résonne très très fort. Et effectivement, plus on l'écoute et plus on entend des choses, c'est un disque effectivement très simple parce qu'il s'articule autour de deux éléments. Donc la voix de Farai qui est effectivement assez impressionnante, très évocatrice, très in your face comme ça, et les productions de Tone qui l'accompagnent, qui est donc un producteur d'origine afro-guyanaise et galloise, et qui sont elles aussi basées sur des choses assez simples. On a parlé de ces synthés abrasifs, ces boucles aussi synthétiques. Parfois, il y a des choses un peu plus organiques. Sur un titre, Talula, on entend une guitare. On entend de la batterie. Parfois, je crois qu'elle est assurée par le batteur de Mount Kimby. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Les textes, effectivement, sont très pareils, très in your face. Elles fonctionnent un peu comme... On a un peu l'impression d'entendre des slogans. Alors, je crois que dans son histoire aussi, elle a eu une période de sa vie très compliquée. Elle a fait un burn-out, elle a fait des ateliers de thérapie par la musique. Et c'est là aussi où s'est développé son art du spoken word. Donc, on a comme ça des slogans, comme le titre qu'on vient d'entendre, « Bankers are gangsters »,« Opinions are not facts ». Elle invective la reine Elisabeth, elle invective Theresa May. Et autour de ça... Il y a des choses des petits éléments comme ça qui sont insufflés dans le disque. Il y a un saxo sur un titre qui s'appelle Space is the Place. Il y a ce titre Radiant Child où sa voix est passée à l'autotune et contrairement à tous les albums de hip-hop où on l'entend beaucoup, là c'est pas juste un accessoire de mode, ça lui permet vraiment de faire muter sa voix, de la rendre dérangeante, parfois je dirais pas crispante, mais en tout cas, il se passe quelque chose. On est un peu surpris, un peu heurté. Et il y a un titre très très beau qui s'appelle Secret Garden, où là, on est carrément le spoken word qui prend toute sa dimension de gospel. Il y a des boucles électroniques comme ça qui tournent autour de sa voix. Très peu, mais elles tournent autour, elles sont là. Et ça ouvre l'album à quelque chose de même psychédélique. Et c'est pour ça que je trouve ce disque très beau. C'est que, au-delà peut-être de sa portée politique que Olivier a évoquée, je pense, on en reparlera peut-être, mais un disque pas besoin d'en faire trop pour résonner très très fort et être porteur de plein d'idées, plein de sons, plein de sensations. Et du coup, pour en revenir à la question que vous me posiez, de la première à la dernière écoute, j'ai découvert plein de choses et j'ai envie de l'écouter encore et encore.
Sophie Rosemont, premier regard sur cet album de Farai.
C'est vrai que la première écoute, j'étais un peu surprise, dès qu'on dansait, par un album 14, hein, j'ai jugé disparate. Et dès la deuxième, en fait, j'ai été interpellée par ces citations qui sont à la fois naïves et pas du tout, de personnalités dont la plupart me parlent beaucoup. Même si c'est clairement de l'afro post-punk, j'ai évidemment pensé au Last Poets, Revolution is Coming. En tout cas, c'est un album qui se veut révolutionnaire, qui se veut aussi féministe. Hein. Elle cite Angela Davis et elle partage le même prénom qu'une activiste africaine qui, en ce moment, bouscule les codes au King's College à Londres, qui s'appelle Farai Moubaïwa. Et donc, qui est encore plus, on comprend très vite qu'il est politique, cet album, mais il est aussi profondément sociétal. Et tout ça, évidemment, elle le dit d'une manière quasiment incantatoire, très simple, qui m'a fait penser, sans les petits couplets narratifs, à un Whitey on the Moon de Jill Scott Heron. C'est voilà, dans cette espèce de répétition, de scansion, quelque chose aussi de dénué de toute opération séduction, très volontairement, même si elle apparaît avec des décolletés, si on va regarder des vidéos sur YouTube ou certains lives qui sont franchement impressionnant. J'en ai vu un dans un studio et elle a une présence quasiment chamanique. Donc oui, niveau textuel, c'est pas riche, c'est pas fleuri, c'est vraiment près de l'os, c'est très musculeux aussi, étonnamment. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment été assez bouleversée et contrairement à Olivier Lam, je trouve que même dans les balades, Talula, cette espèce d'acoustique rugueuse m'a plutôt bien plu.
Olivier, là, sur justement cet aspect que vous aimez moins, peut-être que vous disiez sentimentaliste.
Bah, c'est juste, c'est pas que j'aime pas ça dans l'absolu, c'est que je la trouve beaucoup moins bonne là-dessus, puisque c'est pas une chanteuse qui m'intéresse beaucoup.
Elle
m'intéresse
plus comme, oui,
mais elle m'intéresse
voix,
plus quand elle est sur de l'ascension et sur quelque chose d'un peu plus puissant. Voilà, ou alors, je sais pas, j'aimerais l'entendre sur du reggae ou quelque chose de complètement différent. Là, je trouve que, en termes de tout simplement de conception musicale, c'est un peu plus faiblard, quoi.
Elle a été aussi beaucoup connue avec le clip de This Is England, je crois. Vous parliez de clip, on peut peut-être le décrire.
Oui,
ce clip,
elle est dans un quartier, sans doute de là où elle a conçu l'album majoritairement avec Tone. C'est le sud-ouest londonien. Et dans des rues, bon, bah, pas spécialement propres, des rues londoniennes, quoi, en fait, hein, comme il y en a depuis longtemps, et notamment pendant Jacques Léventreur. Je pense qu'elle devrait faire une question
donc
là-dessus.
Oui, c'est l'Est.
Mais oui, mais je crois que... Ah oui. Géographique, gauche, droite, merci.
Je connais tellement mal Londres, je peux pas vous aider.
Oui, bah, en tout cas. Donc, dans le sud-est londonien, et elle interpelle, elle alpague celui qui regarde ce clip avec son This Is England. C'est finalement noir et blanc, il faut quand même le préciser. Donc c'est un clip assez intemporel où on voit aussi un drapeau, si mes souvenirs sont bons, dans ce clip. Je crois qu'à un moment on voit un drapeau, c'est complètement dans mon fantasme. Et oui, qui est assez... Il faut aussi souligner cette chanson, Lizzie,
qui s'adresse à la reine. En fait.
À la reine, God Bless the Queen. Et donc, je ne sais plus ce qu'on disait, mais en tout cas, oui, charisme assez fort. Et le côté thérapeutique que Pascaline a évoqué, si elle a, voilà, elle a enrichi, elle a travaillé son art via des ateliers de thérapie musicale, il n'est nul doute que ses chansons sont effectivement thérapeutiques pour elle, et pourquoi pas pour nous, selon les titres.
Olivier Lam.
Ouais, non, ça me fait penser que dans quelques semaines va sortir le nouvel album d'un groupe de Birmingham qui s'appelle Sleep on Mods, et qui est encore plus rentre-dedans et qui est plus installé, mais qui est un peu sur, voilà, sur un même genre de, on va dire, d'adresse un peu directe, même s'ils ont une écriture un peu plus complexe, qui est un des groupes les plus formidables qui existent actuellement au Royaume-Uni. Voilà.
En attendant, Rebirth de Farai, apparu fin novembre, et c'est chez Big Dada. Et
Et nous terminons cette dispute musique avec le coup de cœur d'Olivier Lame, premier de cette nouvelle année 2019. J'espère qu'il sera à la hauteur pour un essai de Mark Fisher, Le réalisme capitaliste, dont vous allez nous dire tout de suite peut-être ce qu'il vient faire dans cette dispute musicale.
Oui, bah, déjà préciser que Mark Fisher, qui s'est suicidé en 2017, était un très grand critique, un des critiques qui m'a le plus influencé dans ma vie de lecteur, avec un très bon ami à lui qui s'appelle Simon Reynolds, et il est plutôt, lui, sur un, on va dire, sur un versant plus théorique. Voilà, la preuve en est que ce livre s'appelle Le réalisme capitaliste, mais il y a d'autres livres, notamment, qui ne sont pour l'instant pas disponibles en français, mais si jamais vous êtes anglophone ou vous lisez l'anglais, il y a notamment une somme de son blog qui s'appelait K-Punk, qui est paru récemment chez un éditeur qu'il avait créé, qui s'appelait Repeater, et qui est une somme de 800 pages de tous les articles, en fait, qu'il avait fait paraître sur le blog, et qui est une lecture absolument essentielle si on veut comprendre un peu aujourd'hui ce que peut la critique musicale et la critique d'objets culturels, parce qu'il écrit aussi beaucoup sur le cinéma. C'est un critique qui a initié je vais utiliser le mot concept, qui est peut-être un petit peu exagéré. En tout cas, des idées, des manières de parler de musique, comme l'anthologie, avec un H, qu'il avait emprunté à Derrida, ou l'hédonisme dépressif, parce qu'il a beaucoup écrit sur la dépression, il était lui-même malade. Et là, on a en version un peu concentrée, presque délestée de la musique et des autres objets culturels qui étaient son biais de prédilection pour déchiffrer le monde, un livre qui en gros est une sorte de guide de survie, j'ai envie de dire, dans le capitalisme contemporain. Voilà, qui est si prégnant, qui englobe tous les possibles politiques et il a beaucoup écrit sur cette impression de surplace de notre culture. Voilà, on a évoqué différentes choses tout au long de cette émission. Pour moi, il donne des outils de réflexion et des outils de critique qui permettent de sortir de biais rhétoriques systématiques de la critique. Par exemple, le capital, le commercial contre une sorte de pureté de l'artiste, et qui sont des objets, des outils qui ne sont plus du tout opérants dans ce que lui, de ce qu'il décrit dans ce livre-là, qui est, voilà, une espèce d'état, terminal du capitalisme, mais en même temps dans lequel dont on ne se voit absolument pas sortir. C'est un livre qui est assez fataliste, et en même temps il offre des pistes de sortie à la fin. C'est un livre extrêmement puissant, très court, il fait moins de 100 pages, qui, je trouve, permet de mieux comprendre notre rapport à l'art, notre rapport au monde. C'était un très grand penseur, et c'est vraiment une chance qu'il soit enfin traduit. J'ai un peu discuté avec les gens d'Entremonde à l'occasion d'un article que j'ai fait pour Libération, de l'éditeur Entremonde, qui est un petit éditeur suisse. Ils vont faire d'autres, notamment Ghosts of My Life, qui est un autre qu'il a écrit sur la dépression, et il utilise des objets pour raconter cette impression d'être complètement à l'arrêt au niveau créatif, en tout cas cette impression très forte qu'on nous a volé, qu'on a supprimé le futur.
Alors, je suis embêtante, je reviens à la musique, mais est-ce que vous pouvez nous citer ou des exemples d'objets justement musicaux qu'il a pu analyser qui vous ont marqué, ou vous, à l'inverse, des objets musicaux que vous avez analysés au prisme, par exemple, de ce que vous avez lu.
Le concept d'anthologie dont je parlais, qui est vraiment, en gros, c'est des objets électroniques qui contiennent un peu la mélancolie de leur propre incapacité à figurer le futur, parce qu'il a beaucoup écrit. Il faisait partie d'un collectif qui s'appelait le CCRU, qui était à Warwick University, dont faisait partie, par exemple, Nick Land, qui est un des grands penseurs de l'accélérationnisme, plutôt de droite. Mark Fisher était un socialiste, très engagé à gauche, et ils étaient absolument passionnés de musique électronique, à ce moment où elle redéfinissait un nouveau futur chaque semaine, qu'un nouveau micro-genre de musique naissait. Et lui a beaucoup écrit dans les années 2000 que cette impression-là s'était complètement évaporée, et du coup il cherchait dans des objets, je pense notamment à la musique électronique de Boreal, qui est un artiste électronique majeur de ces dernières années, et qui contenait à l'intérieur, dans ses sonorités et ses ambiances, cette perte, en fait, irrémédiable d'une musique électronique qui ne pourrait plus en fait incarner un espoir, ou en tout cas une alternative, puisqu'il écrit beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui les œuvres d'art contiennent leur propre incapacité à devenir subversives. Voilà.
Le réalisme capitaliste, sous-titré N'y a-t-il aucune alternative, de Mark Fisher, donc traduit par Julien Guazzini, apparu aux éditions Entremonde. avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Sarah Dion, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Sarah.
Merci.
Qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner la réponse.
La question était: de quel ancien musée lyonnais peut-on retrouver les collections au musée des Confluences à Lyon?
La réponse
est le musée Guimet.
Et oui, à gagner ce soir des invitations pour l'exposition Les Contes Cruels de Paul Arrigo jusqu'au 19 janvier. C'est au musée de l'Orangerie à Paris. Quelle est la question, Sarah?
Quel est le nom de la galerie située au cœur d'Hyde Park à Londres où Paul Arrigo a notamment exposé en 1988?
Votre réponse et vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Bonne idée pour cette nouvelle année. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques et un programme entièrement consacré à la photo avec l'exposition consacrée à JR à la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Léna Dard, une légende photographique, ça c'est à la Bibliothèque Nationale de France. Et puis, photographie, armes de classe au Centre Pompidou.